Chapitre 58. Un écumeur de mer. Le nom du frère du général Herbel, le père de Pétrus, est déjà plus d'une fois revenu dans ce récit. Mais le nombre de nos personnages est si grand, et nos faits sont si nombreux et si profondément enchevêtrés les uns dans les autres, que, pour plus de clarté, nous préférons, au lieu de poser, selon les règles de l'art dramatique, nos personnages dès les premières scènes, nous préférons, afin de ne pas compliquer l'intrigue, peindre le physique et le moral de ces personnages au moment même où ils apparaissent au lecteur pour prendre une part active à notre action. Comme on le voit, le père de Pétrus vient d'enfoncer la porte de l'atelier de son fils et de faire apparition dans notre livre. Or, ce nouveau venu va jouer, et a déjà joué, même dans l'existence de son fils, un rôle assez important, pour que, dans l'intérêt des scènes qui vont suivre, nous nous croyons obligés de dire quelques mots sur ses antécédents que lui reprochait si amèrement son frère. Que notre lecteur se rassure, ce n'est point un nouveau roman que nous entreprenons, et nous serons aussi brefs que possible. Christian-Pierre Herbel, vicomte de Courtenay, frère cadet du général, était né comme lui dans la patrie de Duguay-Trouin et de Surcouf. Il était né en 1770 à Saint-Malo, l'air de tous ces aigles de mer qu'on désigne sous le nom générique de corsaires et qui ont été, sinon les froids, du moins le fléau des Anglais pendant 6 siècles, c'est-à-dire depuis Philippe Auguste jusqu'à la Restauration. J'ignore s'il existe une histoire de la ville de Saint-Malo, mais je sais que nulle ville maritime ne pourrait se vanter à meilleur droit d'avoir mis au monde de plus loyaux enfants, d'avoir donné à la France de plus intrépides marins. Entre Duguay-Trouin et Surcouf, nous pouvons placer Christian le Corsaire, ou, si nous voulons, au lieu de son surnom de guerre, lui donner son nom de famille, Pierre Herbel, vicomte de Courtenay. Pour le faire connaître, il nous suffira d'éclairer d'un rayon quelques-uns des premiers jours de sa jeunesse. Dès 1786, c'est-à-dire âgé de 16 ans à peine, Pierre Herbel faisait partie de l'équipage d'un corsaire sur lequel il s'était, 2 ans auparavant, engagé comme volontaire. Après avoir capturé 6 navires anglais dans une seule campagne, ce corsaire armé à Saint-Malo fut pris à son tour. Le navire capturé fut conduit dans la rade de Portsmouth et l'équipage réparti sur les pontons. Le jeune Herbel fut, avec 5 de ses compagnons, envoyé sur le ponton du Roi Jacques. Il y resta 1 an, toujours avec ses 5 compagnons. On avait fabriqué dans l'entrepont une espèce de cabine infecte qui servait de prison aux 6 prisonniers. Ce cachot était aéré et éclairé en même temps par un sabord d'un pied de large et de 6 pouces de haut. C'était par cette ouverture que les malheureux voyaient le ciel. Un soir, Herbel dit à ses compagnons en baissant la voix « Est-ce que vous ne vous ennuyez pas ici ?»« Fastidieusement, » répondit un Parisien qui de temps en temps jetait un peu de gaieté dans la bande. « Que risqueriez-vous bien pour vous en aller ?» continua le jeune homme. « Un bras, » dit l'un. « Une jambe, » dit l'autre. « Un œil, » dit le troisième. « Et toi, le Parisien ?»« La tête. »« Ah, la bonne heure, tu ne marchandes pas, toi. Et tu es mon homme. »« Comment je suis ton homme ?»« Oui. » « Que veux-tu dire ? Je veux dire que je me sauve cette nuit, et comme tu mets le même enjeu que moi, nous nous sauverons ensemble. »« Ah, voyons, pas de bêtises, dit le Parisien. Explique-toi, dirent les autres. Ce sera bientôt fait. J'ai assez de cette eau chaude qu'ils appellent le thé, de cette vache enragée qu'ils appellent du bœuf, de ce brouillard qu'ils appellent de l'air, de cette lune qu'ils appellent le soleil, de ce fromage à la crème qu'ils appellent la lune, et je pars. Comment pars-tu ? Vous n'avez pas besoin de le savoir, puisqu'il n'y a que le Parisien qui vienne avec moi. Et pourquoi cela n'y a-t-il que le Parisien qui vienne avec toi ? Parce que je ne veux pas de gens qui marchandent quand il s'agit de la France. Eh, morbleu, nous ne marchandons pas. « Alors, c'est autre chose. Vous êtes décidé, s'il le faut, à laisser votre vie dans l'entreprise que nous allons tenter ? Avons-nous une chance pour nous ? Nous en avons une. Et contre nous ? 9. Ah, nous en sommes alors. En ce cas, tout va bien. Qu'avons-nous à faire ? Rien. Cependant, vous avez à me regarder et à vous taire. Voilà tout. C'est bien facile, dit le Parisien. Ah, pas tant que tu crois, dit Herbel. En attendant, silence. » Herbel alors détacha sa cravate de son cou et fit signe à son voisin de l'imiter. Puis tous les autres imitèrent le voisin. « Bien, dit Herbel. » Et prenant les cravates les unes après les autres, il les noua bout à bout. Puis, quand elles le furent nouées, il en passa l'extrémité par le sabord et la laissa pendre vers la mer, comme il eût fait d'une ligne. Puis il l'attira à lui. L'extrémité n'était pas mouillée. « Ah, diable, fit-il, qui est-ce qui ne tient pas à sa chemise ?» Un des prisonniers ôta sa chemise et en déchira une bande. Herbel ajouta la bande aux cravates, noua un caillou à l'extrémité pour remplacer le plomb de sonde et répéta la même opération. La ligne revint mouillée. Elle était donc assez longue pour atteindre la mer. « Ah, tout va bien, dit Herbel. » Et il rejeta la ligne. La nuit était sombre et il était impossible qu'on vît dans l'obscurité cette ligne qui pendait au flanc du navire. Les autres le regardaient faire avec inquiétude et le voulaient interroger, mais il leur répondit par un signe qui voulait dire « silence ». Une heure à peu près s'écoula. On entendit le clocher de Portsmouth qui sonnait minuit. Les prisonniers comptaient les coups avec anxiété. « La douzaine y est, dit le Parisien. « Minuit, dirent les autres. « C'est tard, n'est-ce pas ? Demanda une voix. « Il n'y a pas de temps perdu, répondit Herbel. « Silence !» Et tout rentra dans l'immobilité. Au bout de quelques minutes, son visage s'éclaira. « Ah, sa mort, dit-il. « Bon, dit le Parisien, rends la main. » Herbel agita doucement la ligne comme il l'eût fait d'un cordon de sonnette. « Ça mord-il toujours ? Demanda le Parisien. « Il est pris, dit Herbel. » Et il tira la ligne à lui, tandis que les prisonniers se dressaient sur la pointe des pieds pour voir ce qu'il allait amener. Il amena une petite lame d'acier, fine comme un ressort de montre, aiguë comme une mâchoire de brochet. « Ah, je connais ce poisson-là, dit le Parisien, cela s'appelle une scie. « Et tu sais à quelle sauce il se met, n'est-ce pas ? Répondit Herbel. « Parfaitement. Alors nous te laissons faire. » Herbel détacha la scie et cinq minutes après, l'instrument mordait sans bruit dans la carène du roi Jacques, prolongeant le sabord de manière à en agrandir l'ouverture au point qu'un homme pût y passer. Pendant ce temps, le Parisien, dont l'esprit délié nouait aussi facilement les uns aux autres les fils d'une action que Pierre Herbel les deux bouts d'une cravate, le Parisien racontait tout bas aux autres comment Pierre Herbel s'était procuré l'instrument à l'aide duquel il opérait. Trois jours auparavant, une amputation avait été pratiquée à bord du roi Jacques par un chirurgien français établi à Portsmouth. Quelques mots avaient été échangés entre Pierre Herbel et le chirurgien. Sans doute, Pierre Herbel avait demandé à son compatriote de lui procurer une scie. Le chirurgien la lui avait promise et il avait tenu parole. Lorsque le Parisien eut fini les suppositions, Pierre Herbel fit signe de la tête que tout ce qu'il avait supposé était la vérité. Un des côtés du sabord était scié, on passa à l'autre. Une heure sonna. « Bon, fit Pierre Herbel, nous avons encore 5 heures de nuit. » Et il se remit à la besogne avec une ardeur de bon augure pour le succès de l'entreprise. Au bout d'une heure, le travail était terminé et le morceau de bois scié ne tenait plus qu'à un fil. Le moindre effort devait suffire pour le détacher. Lorsqu'on en fut là, Pierre Herbel s'arrêta. « Attention, dit-il, que chacun fasse un paquet de son pantalon et de sa chemise et le fixe sur ses épaules avec ses bretelles à peu près comme un fantassin fixe son sac. Quant à la veste, nous nous en priverons vu la couleur et la marque. » Les vestes des prisonniers étaient jaunes et marquées d'un T et d'un O. On obéit en silence. « Maintenant, continua-t-il, voici 6 petits bâtons de différentes grandeurs. » « Celui qui amènera le plus grand se mettra à l'eau le premier, et ainsi de suite. » On tira au sort. Pierre Herbel devait sortir le premier et le Parisien le dernier. « Nous y sommes, » dirent les trois matelots. « D'abord, un serment. »« Lequel ?»« Il est possible que la sentinelle tire sur nous. »« C'est même probable, » répondit le Parisien. « Si personne n'est touché, tant mieux, mais si quelqu'un est touché... » « Ah, tant pis pour celui qui sera touché, dit le Parisien. Mon père, qui était cuisinier, disait toujours que l'on ne faisait pas d'omelette sans casser des œufs. Ce n'est pas assez. Nous allons donner notre parole que celui qui sera touché ne poussera pas un cri, se séparera à l'instant de ses camarades, nagera à droite ou à gauche, et quand il sera repris, donnera de faux renseignements. Foi de français, répondirent les cinq prisonniers en étendant la main. Eh bien alors, à la garde de Dieu. Pierre Herbel fit un effort, attira à lui la pièce de bois qui, en cédant, donna une ouverture à travers laquelle pouvait passer le corps d'un homme. Puis, à l'aide des deux traits de scie, tirés verticalement à trois lignes l'un de l'autre, il creusa une espèce de mortaise dans laquelle il passa l'extrémité de la corde composée des cravates et des manches de chemise qui devaient servir à descendre les hommes jusqu'à la mer. Fit un nœud à l'extrémité de cette corde, de manière à ce que le nœud, ne pouvant passer par l'ouverture, présentât la résistance nécessaire au soutien du corps d'un homme. Enfin, passa à son cou une gourde de rhum suspendue à un cordonnet. Puis enfin, se fit lier autour du poignet gauche son couteau tout ouvert. Et ses préparatifs achevés, prenant la corde, se laissa glisser jusqu'à la mer, où il disparut pour ne reparaître qu'au-delà du cercle de lumière projeté par la lanterne qui brûlait sur la galerie extérieure où se promenait la sentinelle. Enfant de l'océan, Pierre Herbel, élevé au milieu des vagues comme un oiseau de tempête, était excellent nageur. Aussi traversa-t-il sans effort et en plongeant les 15 ou 20 brasses sur lesquelles s'étendait le rayon lumineux, puis il reparut dans l'obscurité. Seulement, au lieu de poursuivre son chemin, il s'arrêta et attendit ses compagnons. Au bout d'un instant, la vague s'ouvrit à quelques pas de lui, et la tête d'un second prisonnier apparut à la surface de la mer, puis celle d'un troisième, puis celle d'un quatrième. Et tout à coup, une lumière éclaira la vague, une détonation retentit, la sentinelle venait de faire feu. On n'entendit pas un cri, mais personne ne reparut. Seulement, presque immédiatement, le bruit d'un corps tombant à l'eau se fit entendre, et au bout de 3 secondes, la mer s'ouvrant, laissa voir la figure fine et railleuse du Parisien. « En avant, dit-il, il n'y a pas de temps à perdre, c'est le numéro 5 qui en tient. »« Suivez-moi, dit Pierre Herbel, et tâchons de ne pas nous séparer. » À ces mots, les 5 fugitifs, conduits par Pierre Herbel, se dirigèrent, autant que la chose était possible, vers la pleine mer. Derrière eux, à bord du ponton, se faisait un grand vacarme. Le coup de fusil de la sentinelle avait donné l'alarme. 5 ou 6 coups de fusil furent tirés au hasard. Les fugitifs entendirent siffler les balles, mais aucun d'eux ne fut atteint. Une barque fut mise à la mer avec la promptitude qui constitue cette sorte de manœuvre. 4 rameurs s'y précipitèrent, 4 soldats et un sergent descendirent après eux, fusils chargés, baïonnettes au bout du fusil, et la barque se mit à la poursuite des fugitifs. « Éparpillez-vous, si vous voulez, dit Herbel, et au petit bonheur. »« Bon, répondit le Parisien, ce sera notre dernière ressource. » La barque bondissait sur les flots. Un marin, placé à l'avant, portait une torche qui jetait une lumière à distinguer un bar d'une dorade. Elle avançait droit à la poursuite des fugitifs. Tout à coup, à la gauche de la barque, on entendit un cri. On eût dit la plainte d'un esprit de la mer. Les rameurs serrèrent, la barque s'arrêta. « À l'aide, au secours, je me noie !» cria une voix avec l'accent de l'angoisse. La barque tourna sur bâbord et, changeant de direction, se dirigea du côté d'où venait la voix. « Ah, nous sommes sauvés !» dit Herbel. Le brave Mathieu, se voyant blessé, a pris à gauche et les attire à lui. « Vive le numéro 5 !» dit le Parisien. « Une fois à terre, je promets de boire un fameux coup à sa santé. » « Plus un mot, et avançons, dit Herbel. Chacun de nous va avoir besoin de toute son haleine, ne la prodiguons donc pas. » On continua d'avancer, Herbel faisant tête de la colonne. Après 10 minutes de silence, pendant lesquelles on pouvait estimer avoir fait un quart de mille, « Ne vous semble-t-il pas, dit Herbel, que la mer devient plus difficile? Est-ce que je me fatigue, ou aurions-nous dérivé à droite ?»« À gauche, dit le Parisien, nous sommes dans la vase. » « Qui m'aide ?» dit un des nageurs. « Je me sens pris. »« Donne-moi la main, camarade, » dit Herbel. « Que ceux qui peuvent nager encore nous tirent à eux. » Herbel se sentit pris par le poignet. Une secousse violente le fit dériver à gauche. Il entraîna avec lui le prisonnier envasé. « Oh, par ma foi, » dit celui-ci, retrouvant une eau plus liquide, « voilà qui va mieux, mourir noyé. Bon, c'est la mort d'un marin, mais mourir dans la vase, c'est la mort d'un récureur d'égout. » On doubla un petit cap, on aperçut une lumière. « Ah, la prison de Fortun, » dit Herbel, « nageons de ce côté. Les îlots de Vase sont à l'ouest. Par ici, nous avons 2 lieues de mer. Mais nous avons fait parfois de plus longues promenades que cela. il ne s'agissait pas de notre vie. En ce moment, une fusée, suivie d'un coup de canon, sortit du ponton du roi Jacques. Ce double signal annonçait une évasion. 5 minutes après, une autre fusée et un autre coup de canon partirent de la forteresse de Fortone. Puis 2 ou 3 barques, ayant chacune une torche à sa proue, s'élancèrent à la mer. « À droite, dit Pierre Herbel, où elles arriveront à temps pour nous barrer le passage. » « Mais les îlots de Vase, demanda une voix. « Nous les avons dépassés, répliqua Herbel. On nagea silencieusement pendant 5 minutes en appuyant à droite. Le silence était si grand que l'on entendait la respiration d'un des nageurs qui s'embarrassait. « Hé, fit le Parisien, s'il y a un veau marin parmi nous, qu'il le dise. « C'est moi qui me fatigue, dit le numéro 3. Je sens la respiration qui me manque. « Fais la planche, dit Herbel, je te pousserai. » Le fugitif se retourna sur le dos et prit un instant de repos dans cette position, mais bientôt il se retourna. « Es-tu déjà défatigué ? » demanda le Parisien. « Non, mais cette eau est glacée et je gèle. Le fait est, dit le Parisien, qu'elle n'a pas 35 degrés de chaleur. » « Attends, dit Herbel, en nageant d'une seule main et en présentant sa gourde au numéro 3. « Il me sera impossible, dit celui-ci, de me soutenir sur l'eau et de boire. » Le Parisien lui passa la main sous l'aisselle. « Allons, bois, dit-il, on te soutiendra pendant ce temps. » Le numéro 3 saisit la gourde et avala 1 ou 2 gorgées. « Ah, dit-il, voilà qui me sauve la vie. » Et il tendit la gourde à Herbel. « Eh, le Parisien, il n'aura donc rien pour sa peine ?»« Bois vite, dit Herbel, nous perdons du temps. » « On ne perd jamais de temps quand on boit, dit le Parisien. » Et à son tour, il avala 1 ou 2 gorgées de la liqueur alcoolique. « Qui en veut ? » dit-il en élevant la gourde au-dessus de l'eau. Les 2 autres fugitifs étendirent la main et chacun à son tour puisa de nouvelles forces au réservoir de feu. La gourde revint à Herbel, qui la repassa à son cou. « Eh bien, tu ne bois pas ? » lui demanda le Parisien. « Oh, j'ai encore de la chaleur et des forces, dit Herbel, et je garde ce qui reste dans cette bouteille pour un plus fatigué que moi. »« Oh, grand pélican blanc, dit le Parisien, je t'admire, mais je ne t'imite pas. »« Silence, dit numéro 4, j'entends parler devant nous. »« Et parler, bas breton, Dieu me damne, dit le numéro 3. »« Comment peut-il y avoir des bretons dans le port de Portsmouth ?» Un silence, dit Herbel, et approchons le plus possible de ce point noir que nous avons devant nous et qui m'a tout l'air d'un sloop. Il ne se trompait pas, la voix venait de là. Silence donc. On fit silence et l'on reconnut un bruit d'aviron qui battait la mer. Prenons garde à la barque, dit tout bas un des fugitifs. Elle n'a pas de lumière, elle ne nous verra pas. En effet, elle passa à 10 brasses des fugitifs sans les apercevoir. Seulement, elle continuait un échange de paroles avec le sloop. « Fais bonne garde, Pitcairn, disait une voix, et dans 2 heures nous revenons avec de la monnaie. « Sois tranquille, dit une voix venant du bord et qui était sans doute celle de Pitcairn. « Bonne garde sera faite. « Mais, jour de Dieu, dit le numéro 3, comment se fait-il qu'il y ait des compatriotes dans le port de Portsmouth ?»« Je t'expliquerai tout à l'heure, dit Herbel, en attendant, nous sommes sauvés. » « Ah, tâche que cela soit bientôt, dit numéro 3, car je ne me sens plus tant j'ai froid. Ni moi non plus, dit numéro 4. Soyez tranquille, dit Herbel, tenez-vous ici, si vous pouvez, sans reculer ni avancer, et laissez-moi faire. » Et, fendant la vague comme un dauphin, il s'avança dans la direction du sloop. Les 4 fugitifs se rapprochèrent autant qu'ils purent les uns des autres et regardèrent de tous leurs yeux et écoutèrent de toutes leurs oreilles afin d'être prêts à l'événement, quel qu'il fût. D'abord, ils virent disparaître Pierre Herbel dans l'obscurité de la nuit, rendue plus épaisse par l'ombre que projetait le sloop. Puis, ils entendirent ce dialogue en bas-breton que 2 des nageurs, étant l'un de Saint-Brieuc et l'autre de Quimperlé, purent traduire à leurs compagnons. C'était évidemment Pierre Herbel qui le provoquait. « Ohé, de la barque ! Ohé, du secours !» Une voix qu'on reconnut pour celle qu'on avait déjà entendue répondit « Qui demande du secours là-bas » « Un camarade, un compatriote du Pays de Galles. » « Du Pays de Galles et de quelle partie du Pays de Galles ?»«
De l'île d'Anglesey. Eh, vite, vite, du secours, je coule.
»« du secours, c'est bien dit, mais que fais-tu là au milieu du port ?»«
Je suis marin à bord du vaisseau anglais La Couronne. On m'a puni injustement, je déserte. »
« Que demandes-tu ? »«
Un instant de repos qui me donne la force de gagner la terre. »« Et pourquoi m'exposerais-je à la prison pour un homme que je ne connais pas? Passe au large. Mais puisque je te dis que je coule, et puisque je te dis que je me noie. » Et l'on entendait la voix coupée par la vague qui passait par-dessus la tête du nageur. La scène était si bien jouée que les fugitifs crurent un instant que leurs camarades se noyaient effectivement et se rapprochèrent du sloop de plusieurs brasses. Mais la voix se fit bientôt entendre de nouveau. « À moi, disait-elle, à moi, tu ne laisseras pas périr un compatriote quand, pour le sauver, tu n'as qu'à lui donner une tire-veille, une corde. Allons, tourne à bâbord. Oh, mon Dieu, est-ce que ce n'est pas toi, Pitcairn ?»«
Si fait, c'est moi, dit le matelot étonné. Et toi, qui es-tu ?
Qui je suis ? Ah, la corde, j'enfonce, je me noie, la corde. »
Et pour la seconde fois, la vague passa sur la tête du nageur.
Eh, morbleu, la voilà, la corde, la tiens-tu ?
On entendit ce grognement sourd du noyé qui veut répondre, mais dont les voies respiratoires sont obstruées par l'eau.
Bon, fit Pitcairn, ne lâche pas. Ah, tu ne m'as pas l'air d'un fameux marin. Si on avait su, on aurait embarqué un fauteuil roulant sur deux poulies pour monter monsieur à bord.
Mais le matelot gallois eut à peine le temps d'achever sa plaisanterie, qu'Herbel, qui venait d'enjamber par-dessus le bastingage du sloop, avait pris son ami Pitcairn à bras le corps, l'avait renversé sur le pont, et, lui tenant le couteau sur la gorge, criait en français à ses compagnons « À moi, camarades, montez par bâbord, nous sommes sauvés !» Les fugitifs ne se le firent pas dire deux fois. Ils s'approchèrent, chacun tirant sa coupe la plus vigoureuse, et en un instant, ils furent tous les quatre sur le pont du sloop. Herbel tenait Pitcairn renversé sous son genou avec le couteau sur la gorge. « Liez-moi et bâillonnez-moi ce brave garçon-là, » dit Pierre Herbel, « mais sans lui faire aucun mal. » Puis à Pitcairn, « Mon cher Pitcairn, continua Herbel, il faut nous pardonner cette petite supercherie. Nous sommes non pas des déserteurs anglais, mais des Français qui s'échappent des pontons. Or, nous t'empruntons ton sloop pour faire un petit tour en France. Mais une fois à Saint-Malo ou Saint-Brieuc, tu es libre. » « Mais, demandèrent les fugitifs, comment se fait-il que l'équipage d'un sloop anglais parle le bas breton ?» Ce n'est pas l'équipage du sloop anglais qui parle le bas breton, c'est nous qui parlons le gaélique.
Ah, me voilà juste aussi avancé qu'auparavant, dit le Parisien.
Tiens-tu à avoir une explication ? Demanda Herbel en bâillonnant Pitcairn avec toute la précaution possible. Il nous faut rendre cette justice.
Mais cela ne me serait point désagréable, je l'avoue.
Eh bien, je vais donc t'apprendre ce que l'on m'a appris à moi au collège.
Apprends.
C'est que les Anglais du Pays de Galles sont tout simplement une colonie de bas-bretons qui a émigré de France, il y a tantôt 800 ou 900 ans, et qui a conservé, pure et intacte, sa langue maternelle. Voilà comment les gaéliques se trouvent parler breton, et comment les bretons se trouvent parler gaéliques.
Ce que c'est que d'avoir étudié, dit le Parisien. Herbel, tu seras un jour amiral.
Pendant ce temps, on avait lié et bâillonné Pitcairn.
« Maintenant, dit Pierre Herbel, il s'agit de se réchauffer, de faire sécher ses habits, de voir s'il n'y a pas dans ce bienheureux sloop quelque chose à se mettre sous la dent et se tenir prêt à sortir du port au point du jour. »«
Pourquoi pas tout de suite, dit le Parisien ?»«
Parce qu'on ne sort pas du port, Parisien, mon ami, avant que le vaisseau amiral en ait ouvert la porte par un coup de canon. »«
Ah, c'est juste, répondirent en cœur les fugitifs. » Un des quatre compagnons fut placé en vedette sur le Beaupré, et les trois autres allèrent rallumer le feu qui dormait dans la cabine. Par malheur, les vêtements mouillés par l'eau de mer ne sèchent pas facilement. On chercha de tous côtés, et l'on trouva des chemises, des pantalons et des vareuses appartenant aux amis de Pitcairn. On s'en revêtit, tant bien que mal, et on était absorbé dans cette grave occupation lorsqu'on entendit la voix de la vedette qui criait « Et là-bas, tout le monde sur le pont !» En un instant, les trois compagnons furent au poste où on les appelait. Ce n'était pas sans raison qu'on les avait fait venir. On voyait s'avancer trois ou quatre points lumineux qui, à mesure qu'ils s'avançaient, prenaient la forme de barques chargées de soldats. Ces barques faisaient une battue dans le port. « Allons, dit Pierre Herbel, nous n'échapperons pas à la visite. Il s'agit de payer d'audace. Faites-moi disparaître l'ami Pitcairn. »
« Faut-il donc le jeter à l'eau ? » demanda un des fugitifs. « Non pas, il faut seulement le cacher, de façon qu'on ne le trouve pas. » « Dis donc, Pierre, fit le Parisien, si nous le cachons dans un hamac, en lui montant la couverture jusqu'aux yeux, on ne verrait pas qu'il est bâillonné, et nous dirions qu'il est malade, et nous y trouverions un avantage, c'est que, comme un malade ne se couche pas tout habillé, l'un de nous hériterait d'une veste, d'un pantalon et d'une vareuse tout bassinée. » La proposition passa à l'unanimité. « Maintenant, dit Pierre Herbel, que ceux qui parlent le bas breton restent avec moi sur le pont, tandis que les autres tiendront compagnie à Pitcairn. Je me charge de tout. » Quand Herbel avait dit « Je me charge de tout », on savait que l'on pouvait s'en reposer sur lui. Aussi le Parisien et ses compagnons descendirent-ils en portant Pitcairn, tandis qu'Herbel et les deux Bretons attendaient la visite. Elle ne se fit pas attendre. Une des barques se dirigea vers le sloop. Pierre Herbel, pour être bien en vue, monta sur le bastingage. « Ohé de la barque !» cria le capitaine qui commandait l'escouade. « Présent !» répondit en bas breton Pierre Herbel. « Allons bon, dit le capitaine, nous avons affaire à des Gallois. Y a-t-il quelqu'un qui parle la langue de ces sauvages ?»« Moi, mon officier, répondit un soldat, je suis de Kermarten. Alors interroge. « Ohé de la barque !» cria le soldat en gallois. « Présent !» répéta Herbel. « Qui êtes-vous ? La belle Sophie, de Pembroke. Tournez-vous ? D'Amsterdam. De quoi êtes-vous chargé ? De morue. Vous n'avez pas vu cinq prisonniers français échappés des pontons ? Ah non, mais si nous les voyons, ils peuvent être tranquilles. Que leur ferez-vous ? Nous les traiterons comme ils le méritent. »« Que disent-ils ? » demanda le capitaine. Le soldat traduisit le dialogue. « Ah, c'est bien, dit l'officier, mort aux Français et vive le roi Georges !»« Hurrah !» répondirent les trois Bretons. La barque s'éloigna. « Bon voyage, dit Pierre Herbel, et maintenant, comme il va faire jour dans une demi-heure, levons l'ancre et appareillons. » Nos cinq fugitifs passèrent une heure dans les angoisses les plus cruelles. Enfin, une ligne grisâtre raya l'horizon oriental. C'est ce qu'on appelle l'aurore en Angleterre. Presque en même temps, une vive lueur, suivie d'une détonation qui courut sur les flots et alla se briser au rivage, apparut au flanc d'un majestueux trois-ponts qui, pareil à une forteresse mouvante, gardait l'entrée du port. C'était le signal pour le sloop de déraper. Il n'en demanda pas une seconde permission. On hissa le pavillon de la Grande-Bretagne et l'on passa à portée de pistolet du vaisseau amiral. En passant, Herbel, debout sur le bastingage et agitant son chapeau, cria de toute la force de ses poumons « Hurrah pour le roi Georges !» L'ordinaire à bord du sloop n'était pas luxueux. Cependant, les repas des cinq prisonniers, comparés à ceux des pontons, étaient de véritables festins. Rendons-leur cette justice qu'à chacun de ces festins, on faisait participer le malheureux Pitcairn. Avec le danger, la rigueur avait cessé pour lui. On l'avait débâillonné et délié, et Pierre Herbel avait recommencé à son endroit le cours d'histoire chimérique qu'il avait fait à ses compagnons. Pitcairn avait compris, mais n'avait pas été consolé. Seulement, il se promettait de se défier dorénavant de ceux qui lui parleraient en langue gaélique. Chaque fois que l'on avait un navire en vue, on forçait Pitcairn à descendre dans l'entrepont. On avait très souvent des navires en vue, mais le bâtiment était de construction anglaise, il naviguait sous une voilure essentiellement britannique, il portait à sa corne les trois léopards d'Angleterre, le lion d'Écosse, la lyre d'Irlande, et même les trois fleurs de lys de France, qui n'en disparurent que 20 ans plus tard. Il était impossible de présumer qu'une coquille de noix française se hasarda ainsi au milieu des croiseurs anglais, et nul n'avait l'idée de voir cinq prisonniers regagnant la France dans ses cinq matelots si tranquillement couchés sur le pont et chargeant le vent et les voiles de faire leur besogne. On avait en effet vent arrière et l'on avait besoin de s'occuper de rien. Le lendemain au matin, c'est-à-dire 24 heures après la sortie du port de Portsmouth, on eut connaissance du cap de la Hogue.
Il s'agissait de serrer le vent pour ne pas le doubler, sinon on tombait dans l'archipel des îles d'Origny, de Guernesey, de Cerques et de Jersey, propriété de l'Angleterre depuis Henri Ier et gardiennes incommodes de nos côtes. On serra le vent et l'on fila droit sur Beaumont. Il serait difficile d'exprimer les sensations qui envahirent le cœur des prisonniers quand, après avoir entrevu la terre de France comme un brouillard, ils la virent se profiler d'une façon plus solide, avec ses collines, ses ports, ses criques, ses anfractuosités de terrain. Puis, quand ils virent se dessiner des maisons blanches avec leurs panaches de fumée, ils étaient absorbés dans cette contemplation à ce point qu'ils avaient oublié de mettre à bas le pavillon anglais. Un boulet de canon fit jaillir l'eau à 100 brasses du sloop et les tira de leur extase. « Eh bien, s'écrièrent les Français étonnés, que font-ils donc? Ils tirent sur nous ?»« Eh non, morbleu, ce n'est pas sur nous qu'ils tirent, » dit Herbel, « c'est sur ce chiffon bleu. » Et il amena rapidement le pavillon. Mais il était trop tard, la belle Sophie était signalée. D'ailleurs, à défaut de pavillon, son allure toute britannique l'eût dénoncée. Il y a dans la marine ce qu'il y a dans la population. Lâcher la plus charmante anglaise, eût-elle été élevée en France au milieu d'un groupe de françaises, et vous reconnaîtrez l'anglaise à sa démarche. Le sloop avait donc été doublement reconnu, reconnu à son pavillon et à sa tournure. Il en résulta que Herbel eut beau amener le pavillon, un second boulet suivit le premier et frappa si près de la belle Sophie qu'il fit rejaillir l'eau jusque sur le pont. « Ah ça, dit le Parisien, décidément, ils ne reconnaissent donc pas leurs amis. »« Que faire ? Dirent les autres. « Avancez, répondit Herbel, il n'y a probablement pas de pavillon français à bord du sloop, et il nous en arrivera autant à chaque port où nous nous présenterons. » « Bon, dit le Parisien, on trouvera bien une nappe, une serviette, un devant de chemise. »« Oui, dit Herbel, mais en attendant, nous sommes signalés, n'est-ce pas? Nous sommes signalés comme anglais. Et tenez, voilà une corvette qui appareille à notre intention. Dans 10 minutes, elle donnera la chasse. Si nous acceptons la chasse, nous serons rejoints et coulés dans 1 heure, car le moyen de leur faire comprendre, si nous sommes en chasse, que nous sommes français. En avant donc, mes enfants, et vive la France !» Un cri unanime de « Vive la France !» retentit, et l'on continua de gouverner droit sur Beaumont. Un instant, le feu cessa. On eût dit que les canonniers se faisaient cette réflexion que ce sloop tout seul n'avait pas grande chance d'opérer son débarquement sur la côte française. Mais au bout de quelques minutes, une nouvelle bordée, mieux dirigée cette fois, brisa une vergue et écorna le bordage de la belle Sophie. « Allons, dit Herbel, il n'y a plus à hésiter. Mettez un chiffon blanc quelconque à la pointe d'une gaffe et faites signe que nous voulons parlementer. » On fit ce que demandait Herbel. Mais soit que l'on ne vit pas le chiffon blanc, soit qu'on ne crût pas au parlementage, le feu continua. Pendant ce temps, Pierre Herbel s'était déshabillé. « Que fais-tu donc, dit le Parisien, vas-tu leur montrer ton derrière? Ce n'est pas un pavillon, cela !» « Non, dit Herbel, mais je vais leur dire qui nous sommes. » Et en même temps, piquant une tête du haut du bastingage, il disparut dans la mer, mais pour reparaître 25 pas plus loin. Il se dirigea en nageant vers le port. De son côté, le sloop se mit en panne, signe qu'il n'avait nullement l'intention de s'éloigner de la côte. À la vue de cet homme qui se jetait à l'eau, de ce bâtiment qui se livrait lui-même, le feu cessa. Puis on vit bientôt une embarcation qui venait au-devant du nageur. Le contremaître qui commandait cette embarcation était justement un malouin. Par un hasard que la circonstance seule le rendait étonnant, Pierre Herbel avait pris ses premières leçons de cabotage sous le vieux loup de mer. Tout en nageant, il le reconnut et l'appela par son nom. Le marin leva la tête, mit la main sur ses yeux, et, abandonnant le gouvernail pour courir à la proue, « Que Dieu me damne, dit-il, si ce n'est pas Pierre Herbel qui vient à nous !»« Fuis donc, père Berthaud !» cria Herbel. « C'est un juron anglais que vous venez de me jeter là, et ce n'est pas ainsi qu'on accueille un compatriote et surtout un élève. Bonjour, Pierre Herbeau, comment se porte votre femme? Comment se portent vos enfants ?» Et, s'accrochant à la barque, « Oui, par Notre-Dame de Saint-Brieuc, je suis Pierre Herbel, dit-il, et je reviens de loin, je vous en réponds. » Et tout ruisselant, il se jeta dans les bras du contremaître. Le sloop était si près de l'embarcation que les quatre compagnons d'Herbel purent voir cette embrassade filiale. « Vive la France !» crièrent-ils d'une seule voix. Le cri arriva jusqu'au canot. « Vive la France !» répondirent les marins qui venaient de recueillir Herbel. « Ah ça !» dit le Pierre Berthaud, « c'en est donc encore des amis ? Ah, je crois bien, vous allez en juger. » Pierre Herbel fit signe au sloop d'arriver. Les fugitifs ne se le firent point dire deux fois. En un clin d'œil, le petit bâtiment. En un clin d'œil, le petit bâtiment se couvrit de voiles et avança vers le port, cette fois non plus au bruit de la mousqueterie, mais au cri de « Vive le roi, vive la France !» Toute la population de Beaumont était sur la jetée. Les cinq fugitifs abordèrent. Pierre Herbel baisa la terre, cette mer commune, comme eût fait un ancien Romain. Les autres se jetèrent dans les bras des premiers venus. Qu'importaient les premiers venus, n'étaient-ils pas des frères ? Le Parisien s'adressait particulièrement à ses sœurs. Pendant ce temps, le pauvre Pitcairn regardait fort tristement cette joie universelle. « Eh !» dit le vieux Berthaud, « qu'est-ce que ce cormoran-là qui ne se mêle pas de la fête ?»« Ah, c'est, » dit en riant Pierre Herbel, « l'Anglais qui nous a prêté son bâtiment. »« Prêté ?» dit Berthaud, « un Anglais vous a prêté son bâtiment ? Mais qu'il vienne donc, que nous le couronnions de roses !» Herbel arrêta Berthaud, qui, dans son enthousiasme, voulait serrer Pitcairn contre son cœur. « Ah, tout beau, » dit Herbel, « il nous l'a prêté comme nous prêtons Jersey au roi anglais, de force. »« Ah, alors c'est autre chose, » dit Berthaud. « Ah, non seulement tu te sauves, mais encore en te sauvant, tu fais des prisonniers. Ah, cette affaire à toi. Un beau marin et un joli sloop, ma foi. Le sloop vaut 25 000 livres comme un liard, 5 000 francs chacun. » « Pitcairn n'est point prisonnier, » dit Herbel. « Comment, Pitcairn n'est point prisonnier ?»« Non, et son sloop ne sera pas vendu. »« Pourquoi cela ?»« Parce que Pitcairn est tombé dans le piège, parce qu'il parle breton et qu'il a bon cœur. Double raison pour que nous le traitions en compatriote. » Puis, faisant signe à l'Anglais, « Viens ici, Pitcairn, » dit-il en bas breton au gallois. Et Pitcairn n'avait rien de mieux à faire que d'obéir. Et il obéit, mais tristement et à contre-cœur, et en boudant comme un bouledogue qui vient de trouver son maître. « Ça, dit Herbel, que tous ceux qui sont bas-bretons viennent ici. » Il se fit un grand cercle. « Mes amis, dit Herbel, en leur présentant Pitcairn, voici un compatriote à qui il s'agit de donner un bon dîner aujourd'hui, attendu qu'il retourne demain matin en Angleterre. « Bravo !» crièrent tous les marins en tendant la main à Pitcairn. Pitcairn n'y comprenait rien. Il se croyait débarqué dans quelque coin de la principauté de Galles qui lui était inconnue. Tout le monde parlait gallois. Herbel lui raconta ce qui se passait et ce qui avait été décidé de lui et de son sloop. Le pauvre diable n'y voulait pas croire. Nous n'essayerons pas de donner une idée du festin dont les cinq prisonniers et le brave Pitcairn furent les héros. On passa la soirée à table, la nuit en danse. Le lendemain, convives, danseurs et danseuses reconduisirent Pitcairn à la belle Sophie, qu'il trouva ravitaillée comme jamais elle ne l'avait été. Puis on l'aida à hisser ses voiles et à lever l'ancre. Puis enfin, comme le vent était bon, il sortit majestueusement du port au cri de « Vive les Bretons, vive les Gallois !» Et comme le temps fut beau ce jour-là et le lendemain, il y a tout lieu de croire que le brave Pitcairn et la belle Sophie abordèrent heureusement en Angleterre et que le récit de cette aventure fait encore aujourd'hui l'étonnement des habitants de la ville de Pembroke.